France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, le dernier numéro de Grand Bien Vous Fasse tel que vous le connaissiez depuis 9 saisons. Et ce matin, à l'approche des vacances d'été, nous célébrons les plaisirs de la sieste, un médicament qui possède des bienfaits miraculeux pour les grands et les petits. Nous verrons notamment quelle est sa durée idéale et la position optimale pour bien siester. Nos invités, le neuroscientifique Brice Farrow, une référence mondiale en la matière, et l'écrivain Sébastien Spitzer. Bonjour Christina Pelédouelle.
Bonjour Ali.
Quel est votre plaisir littéraire cette semaine ?
Eh bien, un plaisir très rafraîchissant. Qui se passera dans des contrées un peu glacées.
Bonjour Grégory Cohen.
Oh, bonjour Ali Rébé.
Chef des restaurants One Place à Rungis dans le Val-de-Marne. Le menu de ce week-end ?
On va en faire un cake. simplement.
Vous n'êtes pas foulé.
On va en faire deux même.
Vous n'êtes pas foulé pour cette dernière.
Non, mais elle est sortie comme ça.
La phrase est bien.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie. Le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, une chronique de circonstance. Hein, une petite semaine après le début de l'été, mais comment profiter de l'été sans la mélancolie qui vite nous gagne quand on pense qu'il va s'arrêter.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique à Télérama, quel est le menu de votre chronique L'Ami du Vendredi ?
Eh bien, nous allons parler de la sieste, certes, mais est-ce que je dors, moi ? Est-ce que les femmes, ça dort ? Pas forcément.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Honorable linguiste à la Sorbonne, quel est le menu de votre dernière chronique avec la langue ?
Eh bien, quelque chose qu'on fait parfois avant la sieste ou pendant, c'est-à-dire écouter les vocaux des amis. Et donc, on va parler des vocaux, de l'éthique et de la gymnastique des vocaux et comment, eh bien, c'est très différent selon les gens.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Regarde-les. Mais regarde-les donc. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein ? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment. Je sais pas, moi, mais. Je sais bien que c'est pas ça, quoi.
Extrait d'Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert avec Philippe Noiret. Bonjour Sébastien Spitzer.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivain, essayiste, enseignant à Sciences Po et vous publiez aux éditions de La Martinière un livre que j'ai adoré, Petite philosophie de la sieste. Bonjour Brice Farrow.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences, le spécialiste mondial de la sieste, on peut le dire, hein, Sébastien Spitzer.
Ouais, hein. Je m'incline.
Et vous avez publié Sauvé par la sieste, Petit somme et grande victoire. Alors vous, Sébastien Spitzer, comme Alexandre le Bienheureux, vous êtes un adepte de la sieste.
Eh oui, j'avoue. Ouais. J'ai mis du temps avant de l'avouer, mais là j'ai fait mon coming out.
Pourquoi vous avez mis du temps ?
Parce que justement, c'était toute la question. Qu'est-ce qui fait que cette sieste est une si mauvaise image ? Pourquoi on la juge ? Pourquoi elle ne convient pas ? Et pourquoi d'ailleurs commencer cette émission par Alexandre le Bienheureux, justement pour tout ça ?
Brice Farrow, la mauvaise réputation de la sieste ?
Eh oui, elle est là, elle est bien, bien présente, mais elle commence à doucement s'en aller au vu des découvertes scientifiques qui montrent que c'est un outil physiologique qui a de nombreuses vertus. La pratique de la sieste qui augmente, on est à 50% des Français qui déclarent la faire au moins une fois par semaine. Donc tout ça fait que, et puis malheureusement, oui, cette dette de sommeil qui quand même grignote année après année, on voit que c'est quelque chose qui ne s'améliore pas.
Mais la mauvaise réputation, si dans votre entreprise, vous dites à votre patron, bah, tiens, je vais prendre 20 minutes pour faire la sieste, c'est pas forcément bien vu.
Non, mais après, le droit du travail prévoit une pause et on fait absolument ce qu'on veut pendant cette pause. Et c'est quelque chose, ça s'appelle la diplomatie du sommeil. On va dans les entreprises pour essayer de leur expliquer l'intérêt gagnant-gagnant pour le salarié et l'entreprise.
Alors Sébastien Spitzer, vous citez Daniel Pennac, pour qui la sieste, je le cite, est un rectangle de temps suspendu dans le ciel.
Eh oui, c'est une merveilleuse image. Et vous savez, comme l'écrivait si bien Voltaire, une image, c'est une idée qu'on a dans la tête. Alors, pour se représenter la sieste, il n'y avait pas mieux que ce dessin-là, que ces mots-là, que cette phrase-là de Daniel Pennac. Mm. C'est ça, c'est ce rectangle de temps suspendu entre ciel et terre, c'est ce moment de suspension, de légèreté, qui pourtant opère et nous fait tellement de bien.
Et quoi de mieux qu'une sieste dans un hamac ? Le hamac, c'est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai découvert le hamac l'été dernier et je ne peux plus m'en passer l'été.
Bah, il était temps. Il était temps.
Faire oui, une sieste dans un hamac.
Bah, métaphoriquement ou symboliquement, c'est ça. C'est ce rectangle, c'est cette toile tendue, c'est entre ici et ailleurs, c'est un peu nulle part et on est balancé au rythme de notre vie, au rythme du cœur, au rythme de la respiration. Et c'est l'idéal pour une bonne petite sieste.
Guillemette.
Non, mais je suis bien d'accord, mais je peux vous contredire. Le hamac, il faut déjà réussir à monter dedans. Hein. Vous êtes marrant. Il faut avoir fait 10 ans de gym pour pouvoir après se caler dans un hamac.
J'ai une image en tête de Guillemette Odissino essayant de grimper sur son hamac. Alors, ce qui est magnifique, Sébastien Spitzer, avec la sieste, c'est que c'est un temps hors du temps.
C'est ça. Et c'est une nécessité même, parce que la sieste, en fait, ce livre, cette petite philosophie de la sieste, s'interroge sur ce qu'elle représente. C'est quoi le symbole ? En fait, c'est un livre plutôt léger, mais profond, sans en avoir l'air. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la sieste ? C'est cette pause, c'est cette façon d'arrêter le temps pendant quelques minutes, alors que tout passe si vite, alors que la pression est permanente. Ce livre-là est une interrogation sur ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui opère pendant la sieste ? Qu'est-ce que les neuroscientifiques ont montré ? Comment on laisse opérer le corps médecin ? Et puis comment notre esprit aussi se remet à zéro ? C'est un reset qui s'opère le temps d'une petite sieste pendant 20 ou 30 minutes. Et franchement, ça change la vie.
C'est un temps suspendu dans un temps hyper productiviste et hyper connecté.
C'est intéressant cette idée-là, dans un temps suspendu et hyper productiviste. Quand vous dites ça, et ce qui a été dit avant me fait penser à cet article de la Constitution chinoise qui oblige les Chinois à préserver un moment de la journée pour faire la sieste. Alors on se dit Chine hyper productiviste, soit peut-être, mais il y a aussi une philosophie de ça, c'est-à-dire que c'est plutôt le Tao. Ça relève de cette perception d'un mouvement, d'un flux cosmique, d'un grand courant dans lequel auquel nous appartenons et contre lequel il ne faut pas lutter, finalement, pour pouvoir être plus fort. Et pour ne pas lutter contre le temps, il faut en accepter parfois les rebondissements, les hauts et les bas. Et ce moment où le temps nous dit « attention, doucement, là, maintenant, on calme le jeu ». Petite pause et on repartira mieux.
Et la sieste, c'est certes du temps perdu pour nos activités, mais c'est du temps gagné pour nous, rien que pour nous, comme vous l'écrivez dans votre petite philo de la sieste.
C'est ça, c'est proustien. Hein. On entend Proust derrière. C'est du temps perdu et du temps retrouvé. C'est du temps pour soi et du temps gagné. Cette sieste-là, je l'ai interrogée à travers tous ceux qui l'ont pensé, qui l'ont pratiqué, qui l'ont caché même. Du jardin d'Épicure, Lao Tzu à nos jours, quoi. N'oublions jamais Newton, par exemple, cette idée fabuleuse de Newton. À quel moment il a eu cette grande révélation qui va changer l'histoire de la physique moderne ? À quel moment ce scientifique va comprendre que la loi de la gravitation, ça veut dire quelque chose ? Si cette pomme lui est tombée sur le coin du pif, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Eh bien, juste au moment où il a somnolé, au moment où il a laissé reposer un petit peu son esprit.
Julie Neveu.
Oui, d'abord, je voulais citer Baudelaire, j'aime bien ce qu'il dit de la sieste. C'est une espèce de mort savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement. Et ensuite, c'est intéressant parce que sieste, ça vient de sexta en latin, donc c'est la sixième heure en fait, l'heure la plus chaude. Et donc ma question, est-ce que les 50% des Français qui déclarent faire la sieste, c'est pas plutôt ceux du Sud ?
Brice Barrault.
Alors, avant de répondre, oui, le temps, c'est vraiment cette sieste, c'est une manière de se réapproprier notre temps. Et malheureusement, comme vous le savez, la société s'est trop donné comme règle de nous voler ce temps si précieux. Et évidemment, c'est un gain de temps, on en parlera tout à l'heure en quoi c'est un gain de temps. Et les histoires de géographie, évidemment, c'est une adaptation à des températures plus élevées. D'ailleurs, c'est un sujet en soi. Mais c'est pas ce qu'on voit en France, en tout cas. Il n'y a pas une proportion plus importante qui ferait de sieste dans le sud de la France.
Christine Appel-Edouard.
Il y a des siestes célèbres dans la littérature et je pense en particulier à celle d'Alice au Pays des Merveilles parce que tout commence par le fait qu'elle s'endort au pied d'un arbre. Et tout s'ouvre, le pays des rêves se déploie. Alors, une question, est-ce que généralement, ça c'est aux neuroscientifiques, on rêve davantage durant la sieste ou davantage durant la nuit ? Moi, j'ai l'impression qu'on rêve beaucoup pendant la sieste.
Oui, alors, alors le rêve, alors déjà c'est quelque chose qui, tout au long du sommeil, on rêve. La question c'est pourquoi, c'est pas qu'on ne se souvient pas, on ne rêve pas, c'est qu'on ne se souvient pas de ses rêves. Et pendant une sieste, on a un sommeil plus léger, donc on va avoir des rêves pendant ce sommeil lent, léger, on va se réveiller plus souvent pendant une sieste que pendant le sommeil lent, profond, au cours d'une nuit. Donc en effet, on rêve plus. Après, c'est des rêves moins construits souvent, parce que le sommeil lent, léger, ça ressemble un peu, il y a un côté un peu hallucination, des choses comme ça, qui est spécifique à l'endormissement et au réveil, qui revient plusieurs fois au cours d'une sieste. Et puis la créativité, peut-être qu'on en parlera au cours d'une sieste, c'est super intéressant.
On y reviendra tout à l'heure, on continue dans un instant à s'intéresser au plaisir de la sieste. Il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Christilla Pelédoel. Alors Christilla, vous avez choisi « Toutes les créatures » de Sarah Louise Butler et c'est publié chez Phébus.
Et oui, parce que je me suis dit, il fait très chaud. Alors si justement pendant ce début d'été caniculaire, on pouvait se plonger dans un livre extrêmement rafraîchissant, au sens propre, c'est-à-dire un livre qui se passe, un roman qui se passe au Canada, dans l'ouest du Canada, un pays où il fait froid. Voilà, alors tout commence au début du XXe siècle, dans les années 20, pas tout à fait le début, enfin dans les années 20, en Colombie-Britannique. Au hasard d'une promenade en montagne, un jeune séminariste qui se baladait par là, pourquoi me demandez pas, je n'en sais rien, tombe sur d'étranges traces dans la neige, d'immenses traces qui ressemblent fort à des pieds humains, mais tellement grands que ce ne peut pas être des pieds humains. Impossible. Alors fasciné, le séminariste, il suit ces traces et il tombe sur une étrange créature, gigantesque, simiesque et très poilue. Vous l'avez compris, nous voilà face à un nouveau Yeti. Mais est-ce que ça a vraiment existé? Alors, et il construit une statue.
Il ressemble à Thibaut de Saint-Maurice ou pas?
Avec plus de poils. Merci, avec plus de poils.
Genre
avec
plaisir, plus de poils. Ça, plus.
Vraiment. Avec la petite gratuité de fin de saison. Ouais, allez,
bon, alors, des années plus tard, le fils et l'arrière-petite-fille de cet homme sont complètement obsédés par cette histoire, vivent dans le même endroit et ils partent à leur tour à la recherche de cette créature. Ah, évidemment, pendant tout le roman, on se demande si c'est vrai, si c'est un fantasme de la jeune fille, car c'est elle qui raconte, donc on peut avoir des doutes. Et est-ce que l'histoire va arriver à son terme? Est-ce qu'on va savoir finalement si ce Yeti existe ou pas? Eh bien, je ne vous le dirai pas. De toute façon, c'est au lecteur de décider. Et il y a une très jolie expression dans ce livre de l'adolescence, de ses inquiétudes, de ses fantasmes. Moi, j'aimerais savoir si c'est une des interrogations, si en grandissant, nous serions ces espèces de créatures bizarres et monstrueuses.
Et voilà. Ça s'appelle donc
Ça s'appelle « Toutes les créatures », Sarah Louise Butler, et la traduction de Charlène Buzali aux éditions Phébus.
Merci Christilla Pelédoel pour toute cette saison de lecture dans Grand Bien Vous Fasse. L'ami du vendredi, c'est maintenant avec Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand Bien Vous Fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
J'avais peur que vous fassiez un jeu de mots avec le Yeti ou un truc.
Non, non, vous inquiétez pas.
Alors, chère Ali, j'arrive de l'aéroport, je me suis levée à 5 heures voilà. Pour prendre un vol, pour ne pas louper ce dernier grand bienfait radiophonique de la saison. Oui, je sais, ça va, je fais la maline alors que d'autres font ça tous les jours pour officier à la matinale. Mais bon, c'est juste pour vous dire à quel point je colle au sujet de l'émission, à quel point la sieste est un concept auquel je vais particulièrement adhérer et dans lequel d'ailleurs je vais me vautrer cet après-midi. On imagine souvent, quand on parle de cette parenthèse de dodo diurne, à des images masculines. Le type qui roupille avec un sombrero sur le nez, Philippe Noiret, dans le film Alexandre le Bienheureux, se rendormant, enfin pour la 12e fois dans son lit, après une tartine de pâté, et alors que sa femme le presse de s'activer. Pourtant, ce sont les femmes, chère Ali, qui méritent de dormir le jour, hein, car ce sont elles qui ne dorment pas la nuit. Les femmes qui veillent sont mes amies. On ne compte plus les scènes au cinéma où l'héroïne se relève pour bosser, plancher sur un dossier, une enquête, pendant que son mec pionce. La nuit est à elle. C'est là, dans la pénombre, à peine éclairée par l'écran de son ordinateur, que la policière trouve enfin l'indice qui va confondre le coupable. C'est là aussi qu'elle trouve enfin le temps, la femme, d'écrire dans son journal intime. Et le matin, le mec, bien reposé la plupart du temps, l'engueule d'avoir pris ce temps pour elle. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué toute cette nuit? T'as vu la tête que t'as? T'as des cernes. Bon. Et alors, on entend aussi cette phrase que j'adore dans les films. « Vas-y, chérie, va te coucher, je te rejoins. » Et la femme, elle croise les doigts que le type s'endorme avant qu'elle se couche. Tant d'autrices ou d'artistes ont créé en veillant, quand le reste du monde était en sommeil. C'est contre la lumière du jour que Virginia Woolf a écrit « Orlando », son livre le plus osé, sur un noble anglais qui voyage dans le temps et change de sexe. Comme le raconte un livre passionnant, « Méfiez-vous », j'adore ce titre, « Méfiez-vous des femmes insomniaques », d'Annabelle Apps.
Et Guillemette, il y a plein de raisons moins artistiques qui font veiller les femmes.
Eh oui, les femmes ne trouvent pas le sommeil parce qu'elles passent en revue toutes les tâches du lendemain, parce qu'elles pensent soudain que la blouse de science de l'ado n'est pas repassée, et aussi évidemment à cause de leurs hormones, puisque la ménopause rend insomniaque. Chouette. Mais surtout, évidemment, il y a les enfants. Les femmes sont des mères veilleuses. Penchée sur le lit de la petite fille fiévreuse, se relevant pour border le bébé qui gigote trop ou vérifier s'il respire encore. « Que tu es belle quand tu dors !» Nous l'avons toutes entendu, cette phrase de la part d'un homme qui, pour une fois dans sa vie, avait les yeux ouverts quand les nôtres étaient fermés. Mouais. L'affaire Pellicot a bien démontré que cette vision romantique de la femme qui dort est compliquée. La femme puissante et romantique, c'est celle que la nuit libère et qui n'aurait rien à craindre, normalement, de sortir se promener dans la campagne ou sous les réverbères de la ville, qui n'aurait pas à craindre le danger que personne ne jugerait sur son apparence. Alors veillez, mes sœurs de la nuit. Continuez à border ce monde de plus en plus fiévreux. Soyez comme ces sentinelles, ces petites lampes toujours allumées dans les théâtres quand il n'y a plus personne. Et accordez-vous des siestes, oui, mais quand aucun homme n'est là pour vous regarder.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino. Guillemette, vous serez de retour le vendredi dans cette émission. C'était le dernier ami du vendredi. Vous nous proposerez une nouvelle chronique la saison prochaine. Allez, on continue à explorer les bienfaits de la sieste. Juste après avoir écouté les Pet Shop Boys, Always on My Mind. Une chanson sortie en 1987, 10h22 sur Inter. We'll be right back. Ketchup Boys, Always on My Mind.
France Inter.
Voilà 30 ans que je me sens doué pour la sieste.
Grand bien vous fasse.
Du champ bien frappé. Une chaise longue et un étang avec des canards.
Ali Rebbi.
Grand bien vous fasse week-end et nous célébrons les plaisirs de la sieste. Elle a entendu le mot sieste et Eva Rock est venue. Eva Rock, grande siesteuse devant l'éternel.
Mais c'est vrai, hein, j'ai des techniques de sieste incroyables.
Et vous n'allez pas faire la sieste cet été, hein?
Non, à cause de vous.
Parce que vous serez à l'antenne de 10h à 11h tout l'été, enfin en juillet.
Exactement.
On y reviendra tout à l'heure, ouais, ma chère Eva. Je vous propose d'écouter le journaliste et écrivain Yvan Audouard.
La sieste, j'ai découvert ça, moi, pendant le service militaire. On nous faisait faire des marches dans le grand soleil. Et alors, il y en avait toujours un au milieu, coincé entre ses deux copains. Et pendant que les autres marchaient, lui, il flottait. C'est ce que je fais en ce moment. Et ici, je fais, si vous voulez, mes siestes les plus actives. Parce que je vous l'ai démontré, la sieste, c'est pas le sommeil. C'est une espèce de plongée en soi-même, sans que le monde disparaisse tout à fait. Et vous voyez d'ailleurs, je garde toujours un pied sur la terre. Et puis quand on est arrivé au fond de soi-même, que l'univers va disparaître, comme en plongée sous-marine, vous savez, quand on commence à voir le délire, et bien petit à petit, on remonte à la surface et on trouve le monde encore plus beau que quand on l'a quitté. Alors la sieste, croyez-moi, à cette époque, c'est un exercice qui devrait être reconnu de salubrité publique. Ça coûte rien, c'est à la portée de toutes les bourses, ça permet de se connaître mieux soi-même et de supporter mieux les autres. À tout à l'heure.
Le journaliste et écrivain Yvan Audouard, le 24 septembre 1978 sur Antenne 2. On entend même les cigales, c'est absolument formidable.
C'est micro-sieste ce texte.
Commentaire Sébastien Spitzer, je rappelle que vous publiez Petite philosophie de la sieste et Brice Faro, vous êtes neuroscientifique sur les propos d'Yvan Audouard.
Oui, alors dernière chose que je retiens de son propos, c'est ça améliore l'humeur. Ouais. Et ça améliore nos interactions sociales. C'est un régulateur émotionnel formidable, le sommeil en général et la sieste en particulier, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Sinon, il a tout compris, hein, voilà. Salubrité publique, quoi.
Sébastien Spitzer.
Ben, on l'a écouté les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes. Ouais. On y était, non? Il a suffi d'un petit grillon et de son ton aussi. Hein. Ce ton nous a bercé, nous a balancé. Et on a versé avec lui dans le sommeil.
Sébastien Spitzer, vous écrivez dans votre livre que la sieste agit pour notre bien sans que l'on n'y prenne part.
C'est ça, c'est extraordinaire. Je suis un joueur de tennis. Ça fait des années que je joue. Je joue beaucoup et toujours aussi mal. J'ai fait plein de stages, mais ça n'a jamais rien changé. Et j'ai appris, en lisant les rapports scientifiques, que, en fait, il y avait des. Quand je voyais mes copains, pendant que j'étais en stage de tennis, faire une petite sieste et revenir plus fort, je comprenais pas. Ouais. Je leur disais, non, ils sont allés s'entraîner sur le mur. C'est pas vrai. Pendant la sieste, le temps de cette petite demi-heure qu'ils se sont accordés, en fait, ils rejouaient. Ils refaisaient, pas le match, mais ils refaisaient le geste. Mmh. Il y a une théorie comme ça que les scientifiques ont établie, c'est la théorie du replay. Mmh. Pendant qu'on ferme les yeux, pendant qu'on se replie sur soi, pendant qu'on laisse tout reposer, et en fait, l'esprit rejoue le truc, rejoue la série. Les sportifs pratiquent la sieste, et j'ai compris maintenant pourquoi. Ça y est, je sais, je vais peut-être en fait être classé. Et c'est pareil dans tous les domaines, pour les mathématiciens, Poincaré. Henri Poincaré, le penseur et scientifique, a établi comme ça une théorie de l'inspiration. Il raconte dans son livre que pour résoudre une équation complexe ou un problème complexe de mathématiques, on travaille. Et puis à un moment, il faut savoir faire un petit pas de côté, penser à autre chose, laisser l'esprit se charger du reste, métaboliser le concept, si je puis dire. Et c'est après, à ce moment-là, après ce petit moment de pause, qu'on a la révélation. Mmh. Mais c'est pas dans l'obstination que les choses se passent. C'est dans le travail, bien sûr, beaucoup de sueur, ok, comme tout le monde. Mais c'est un petit moment de pause que là, les choses s'opèrent.
Le regard du neuroscientifique Brice Faro.
Oui, alors pour objectiver plus sérieusement après ce que vous venez de dire, absolument, il y a des publications scientifiques qui démontrent ça. Le tennis, jolie expérience japonaise, des jongleurs naïfs, on leur apprend à jongler, ils font une sieste, consolidation de ces apprentissages moteurs, ils vont être bien meilleurs que leurs les autres qui n'avaient pas fait de sieste. Et puis évidemment, la théorie du replay, c'est consolider notre mémoire. Ça a été démontré très joliment en IRM fonctionnel, où on apprend à quelqu'un naviguer spatialement dans une ville, aller dans différents endroits de l'un à l'autre. Et puis on voit que lorsqu'il dort, en sommeillant profond, la réactivation des zones cérébrales qui correspondent à cette navigation spatiale précisément dans cette ville. Donc oui, évidemment, on consolide nos apprentissages pendant le sommeil et pendant la sieste.
Ce que vous aimez, Sébastien Spitzer, dans la sieste, c'est cet art du non-agir, Wei-Wei, dans l'antique sagesse chinoise. Le non-agir.
Le non-agir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est dans l'esprit aussi du Tao, c'est savoir se laisser bercer. C'est la grande sagesse de l'abstention, c'est la grande sagesse du moment où on sait se retirer.
Alors, Brice Farot, selon Santé publique France, la durée moyenne de sommeil quotidien des Français est passée sous la barre des 7 heures. Les Français sont en dette de sommeil, et est-ce que la sieste, c'est vraiment le médicament souverain contre cette dette de sommeil?
Alors, je vais tout de suite vous parler, surtout que j'ai participé à cette enquête, mais je vais vous faire un scoop. Ils sont très emmerdés à Santé publique France, parce que cette année, ça a arrêté de diminuer.
D'accord. Oui.
Et donc, eux, c'est raid alerte, attention. Là, ils ne savent plus, donc on va travailler le message. Mais sinon, pour revenir plus sérieusement, en effet, depuis 15 ans, on a un tiers des Français en semaine, des Français actifs, qui sont à 5-6 heures de sommeil. Or, les vrais petits dormeurs, comme notre président, c'est 6-7% de la population. Donc, tous les autres, il leur manque une heure à une heure et demie de sommeil chaque jour pour fonctionner correctement. À la fin de la semaine, on arrive à presque une nuit en moins. Donc oui, en attendant de pouvoir dormir nos nuits pleines entières ou à nos heures idéales, la sieste, c'est un outil physiologique formidable pour compenser ce manque de sommeil et passer au-dessus des 6 heures par 24 heures. Et après, je pense qu'on va pouvoir parler des différentes durées et des moments de la sieste. Et pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai à proposer et ça marche très très bien.
Dans votre livre « Sauvé par la sieste », Brice Farot, vous écrivez que la sieste est une nuit en miniature, transportable en tout lieu, consommable à toute heure et délicieusement protectrice.
Oui, on peut avoir... Je dis aussi que c'est une coéquipière du quotidien. C'est notre première médecine. Quel traitement... Quel traitement est capable de booster notre système immunitaire, booster nos fonctions cognitives, nous faire perdre du poids, réguler nos hormones, améliorer notre humeur? C'est le sommeil, et donc on voit à petite échelle, c'est ce qu'on retrouve dans la sieste de récupération.
Et donc la sieste permet de produire en un temps record certains effets de la nuit de sommeil ?
À plus petite échelle, parce que le danger, c'est certaines personnes dire « je vais faire du sommeil polyphasique, nous on suit les navigateurs, le dernier qui a gagné la route du Rhum, on l'a beaucoup coaché ». On peut dormir un certain temps par période, comme les souris, seul le grand singe et l'homme a un sommeil monophasique.
Monophasique
fois, ça veut dire qu'il dort une période principale la nuit, mais en fait c'est pas tenable chez l'homme, donc... Disons qu'en complément d'une nuit trop courte, ça fonctionne bien. Mais couper et faire plusieurs siestes à la place d'une nuit, ça, c'est pas possible.
De quelle façon la sieste permet au corps et à l'esprit, au cerveau, de se régénérer? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Alors déjà, il y a un désengagement du monde extérieur, première chose. Et après, ça va dépendre, les effets vont dépendre de la durée de la sieste et des stades de sommeil qui vont être présents dans cette sieste. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis, ces stades de sommeil ne vont pas être les mêmes, vont survenir de manière plus facile selon le moment de la journée. Donc c'est deux choses. Alors la durée, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une sieste de 10 minutes, hein? 10 minutes, j'ai dormi, il me manque une heure et demie de sommeil. Je vais passer une émission, j'ai un travail, je fais 10 minutes. Pendant les 2 heures qui suivent, je vais récupérer les fonctions cognitives, la concentration, et on peut la répéter, cette sieste. Ça n'aura aucun impact sur le sommeil de nuit. Après, quand je suis dans une dette de sommeil plus importante, on peut aller vers des siestes à visée un peu plus longue, 30 minutes, on va voir du sommeil lent profond. Juste pour vous donner une idée, parce que vous parliez de comparaison entre nuit et sieste, au cours d'une nuit, l'adulte a en moyenne 100 minutes de sommeil lent profond, quel sommeil le plus récupérateur. Une sieste de 30 minutes, je peux avoir déjà 10 minutes de sommeil lent profond. Une sieste d'une heure, 20 minutes, une heure et demie, 40 minutes. Donc, 40 minutes, 30 minutes versus 100 minutes de nuit, on fait déjà un gros travail de récupération.
Alors vous, Sébastien Spitzer, au fil des semaines, au fil des mois, cette hygiène de la sieste a porté ses fruits sur votre corps et sur votre esprit.
En fait, c'est ça. La sieste, je l'ai acceptée et assumée pendant le Covid. En vérité, pendant ce moment où personne ne pouvait me juger, où j'étais seul chez moi, et je pouvais la pratiquer en toute impunité. Personne n'allait me dire « qu'est-ce que tu fabriques ?» Tu perds ton temps, tu perds ton temps, tu parles. On a bien vu qu'on ne perdait pas du tout notre temps, on le retrouverait au contraire. Et depuis ce moment-là, à l'époque, pendant le Covid, pendant ces mois, le matin je travaillais sur un dossier, sur un projet, et l'après-midi sur un autre. Et le temps de la sieste, je remettais mon inconscient à zéro. Il y avait une opération de reset, on a parlé de replay tout à l'heure, là il y a un reset. J'appuyais sur un bouton, 30 minutes de sieste, et j'étais à même de repartir sur un bon pied. Toute ma créativité, mon imagination, elle était boostée par ce petit moment. C'est comme si j'avais laissé mon esprit faire le tri. D'ailleurs, c'est ce que les scientifiques racontent un petit peu quand ils étudient ce moment-là. L'esprit fait le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas, ce qui vaut le coup d'être prolongé et ce qui, finalement, ne servira pas à la suite.
Vous, Eva Rock, vous participez à la matinale,
la petite matinale,
5-7 présentée par Mathilde Dominos. Vous faites la sieste quasiment tous les jours. Et vous voyez la différence quand vous faites la sieste et quand vous ne la faites pas?
Ah bah, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et j'ai même vous parliez des capacités intellectuelles et même créatives qu'on a, il m'arrive de dormir mes 10 minutes sur ma chaise au bureau, mais vraiment, c'est-à-dire que je m'arrête au cours d'une phrase que je suis en train d'écrire, j'ai 10 minutes de sieste, je réouvre les yeux et je finis ma phrase. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne s'était rien passé pendant 10 minutes et je suis vraiment très très loin, je suis partie très très loin, mais c'est salvateur et je m'endors dans les transports, ce qui me sauve aussi la journée. Donc la fille qui a la tête collée contre la vitre dans le bus, c'est moi, et dans le métro, c'est moi, mais je suis entière.
Oui, c'est ce que vous venez de décrire, là, c'est ce qu'on appelle le moment de l'eureka. C'est l'épiphanie, c'est la révélation, c'est le « ça y est, j'ai trouvé ». Et ça, c'est... Il y a tellement de témoignages de ce moment-là, cette illumination soudaine, de ce feu d'artifice qui vient nous éclairer et nous dire « tiens, voilà, c'est ça la réponse ». Quand on a renoncé, quand on a pris un peu de recul, quand on s'est replié sur soi, comme c'était dit tout à l'heure dans l'interview, le temps de cette petite... de cette pause, de cette somnolence, voire de cette sieste.
Brice Faro, comment expliquer ce moment eureka, ce moment de créativité pendant la sieste? Alors, après la sieste?
Jusqu'à quelques années, on pensait que c'était essentiellement le sommeil paradoxal qui était important pour faire ce qu'on appelle des hyperassociations mnésiques, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions hors contexte de problèmes qu'on cherche à solutionner. Et puis depuis peu, des collègues avec qui je travaille à l'ICM, à la Salpêtrière, ont démontré que l'endormissement, ce que vous décriviez, a une vertu créative, juste de passer en stade 1 de sommeil, qui est le sommeil le plus léger. Là, l'expérience, je vous raconte très rapidement, c'est une règle mathématique cachée. Les gens qui faisaient des endormissements la trouvaient bien plus rapidement que les gens qui restaient à l'éveil. Donc oui, même s'endormir très peu, se réveiller, c'est favorable à notre créativité.
Alors vous, Sébastien Spitzer, vous êtes un adepte de la sieste crapuleuse. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix d'un coup.
Et pourquoi vous me regardez surtout
quand vient la belle saison, à titre personnel, j'aime pas ce terme de sieste crapuleuse, enfin crapuleux.
Mais pourquoi vous dites quand vient la belle saison?
Oui,
quand vient la belle saison.
Oui, c'est l'été toute l'année, bien sûr. Mais crapuleux, dans le Robert, ça veut dire très malhonnête et sordide. Une crapule, c'est un voyou, une canaille sans vergogne. Et vous aussi, vous n'aimez pas tellement ce terme de sieste crapuleuse de...
Bah non.
Pour mieux dire sieste sensuelle.
Sieste agréable,
ouais.
Sieste bienvenue, ouais. Sieste tout sauf crapuleuse, ouais. Puisqu'elle nous fait du
coquine,
bien.
Coquine, comme le souffle dans le casque Claire Destacan. juste sur cette sieste coquine, Brice Faro, il y a eu des études scientifiques
Non. Alors, justement, je suis venu pour vous proposer cette prochaine étude. Donc, vous serez en plus rémunéré et après... Non, bah, évidemment, c'est pas vraiment mon sujet, mais ça détend, donc ça va favoriser le rendormissement. C'est très bien, le sommeil, mais juste pour vous parler de la saison de l'été. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que l'été, on parle de la sieste, là, tout le monde arrive avec la sieste l'été. Moi, mon message, c'est l'été, c'est un moment pour apprendre à faire la sieste. Vous me disiez, quand vous n'arriviez pas à la faire, ça s'apprend, la respiration...
Vous n'arrivez pas à faire la sieste.
Moi, j'ai réussi ma première sieste la semaine dernière.
en tout cas, Sébastien Spitzer, vous évoquiez dans votre livre la sieste d'Épicure. Cette sieste qui permet l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme que les épicuriens et les stoïciens célèbrent.
Ouais. Ce moment du carpe diem, le fameux carpe diem qu'on connaît trop bien, qu'on a tellement répété qu'il est usé jusqu'à la corde, le pauvre carpe diem. Mais c'est ça, ce jardin d'Épicure, c'est le moment épicurien où on va pouvoir en apparence, c'était se faire plaisir. En vérité, c'est progresser, c'est devenir meilleur, c'est devenir plus éclairé.
Le philosophe Roger Paul Droit nous disait dans une émission récente que on était le plus heureux après une sieste. On a mangé juste avant, on dort, on fait peut-être une sieste coquine. C'est un moment absolument merveilleux, en fait, quand on y réfléchit, Sébastien Spitzer, et oui, ce moment de la sieste.
Et ce livre, il est né de ce paradoxe-là. Ouais. Pourquoi ce moment merveilleux a eu si mauvaise presse si longtemps ?
Brice Faro.
Et je rajouterais, c'est totalement physiologique. Alors pourquoi, paradoxalement, on s'autorise à dormir 7 heures la nuit et pas 25 minutes en début d'après-midi ? Juste trois choses. En début d'après-midi, il y a une très légère baisse de la température centrale. Il y a une baisse, il y a un creux, c'est le deuxième creux de vigilance le plus important. Et les systèmes de stress qui, lorsque vous avez votre avion à prendre le matin, c'est quelque chose d'assez formidable. Si vous, dans votre tête, ce matin, je vais me lever tôt, les systèmes de stress, l'horloge biologique va anticiper votre réveil, qui fait que votre réveil sera plus facile. Et bah, ces systèmes de stress, ils font une pause en début d'après-midi, et une sieste va permettre de les régénérer plus et de repartir d'autant mieux au réveil. Donc, tous les voyants sont ouverts pour ce moment-là, récupérer. C'est complètement naturel. Hein,
voilà. Et quelle est la durée idéale de la sieste ? J'ai souvent entendu, je pense que c'est une idée reçue, 20 minutes suffit après. Que nous dit le spécialiste de la sieste que vous êtes, Brice Faro ?
Alors, vous avez raison. 15-20 minutes, c'est la sieste la plus commune chez quelqu'un à qui manque du sommeil la nuit, qui en début d'après-midi va faire sieste de 20 minutes, qui va lui permettre de tenir une partie de l'après-midi. Après, si on est vraiment dans une dette de sommeil plus importante, on peut pousser un peu plus loin, aller vers ce que j'appelle une sieste thérapeutique. Là, il faut 30 minutes de sommeil pour avoir un peu de sommeil lent profond, où on va aller agir plus en profondeur sur l'hormone de croissance, sur le système immunitaire, etc. Et puis dans le cadre du travail de nuit ou en horaire décalé, comme c'est souvent le cas à la radio ou ailleurs, là, on parle de siestes prophylactiques, c'est-à-dire qu'ils vont préparer le travail de nuit qu'on va faire. Et là, on va dans une sieste d'une heure et demie parce qu'on est en tel niveau de dette de sommeil qu'il faut un niveau de récupérer. Peu importe l'inertie, hein, on va en parler tout à l'heure, comment sortir, donc on est dans le gaz que vous expliquiez tout à l'heure.
Justement, allons-y.
C'est pas la question.
Ouais. Allons-y, parce que hors antenne, Guillemette Todisino disait qu'elle se sentait vaseuse dans le gaz après une sieste. Je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas faire la sieste pour justement éviter ce sentiment d'être complètement à l'ouest.
Enfin, je viens un peu de comprendre, parce que moi, mes siestes, c'est une heure et demie, deux heures. Alors, je m'étonne que je suis dans le gaz. Ouais. J'avais pas compris le coup des 20 minutes, en fait.
Hein. Non, mais c'est pas, il y a pas une fausse et une bonne sieste, une mauvaise, une bonne sieste, non. Une heure et demie, on va avoir du sommeil lent profond, c'est lui qui va récupérer, mais c'est lui qui va créer cette inertie. L'inertie, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de bon, c'est le matin, lorsque je me réveille, c'est un tampon physiologique qui fait que tout remonte, la tension artérielle, la fréquence cardiaque remonte doucement, ce ne soit pas brusque. Mais évidemment, en plein après-midi, enfin ça dépend du moment, c'est pas agréable. En général, après 30 minutes, on en sort, il y a la luminothérapie, il y a la caféine. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un peu des fois des migraines,
etc. La caféine, c'est-à-dire que vous recommandez par exemple de prendre un café avant la sieste ?
Alors la sieste, c'est la fameuse sieste caféinée, c'est pour des siestes plus courtes de 20 minutes, je prends un café avant la sieste, et lorsque je vais m'éveiller 20 minutes après, à condition d'être capable de m'endormir assez vite, je vais avoir les premiers effets psychostimulants de la caféine qui arrivent, et donc qui va lever d'autant plus cette inertie.
Grégory Cohen ?
Oui, moi c'est vrai que sur le sommeil et sur les siestes, je fais souvent des injonctions. J'essaie avant de m'endormir, de mettre une intention sur mon sommeil pour arriver à quelque chose. Donc soit c'est du blanc, et dans ce cas-là, je veux que mon cerveau se mette complètement en pause, soit je lui mets une question, et je le laisse après trouver la réponse. Alors je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire,
mais... Elle me fatigue cette sieste,
parce qu'en réalité, tu te réveilles très bien, et tu te réveilles miraculeusement avec une solution qui est géniale. Et inversement... La peur que j'ai, mais comme beaucoup de monde, c'est j'ai trop dormi et je me réveille dans un état presque pire qu'une gueule de bois. Oui. Et là, c'est quand même assez difficile.
Oui, alors ça, c'est toujours cette inertie du sommeil. Mais sinon, on va venir vous enregistrer, vous allez venir dans mon laboratoire. Voilà. Parce que le fait d'avoir une volonté qu'il se passe quelque chose de précis pendant le sommeil, donc chercher à blanc, vous dites, ou chercher une solution, c'est quelque chose de... Je sais pas, ça marche quand vous dites, je vais trouver une solution à quelque chose.
Ah oui, ça marche toujours.
Ouais,
Mais ça a déjà été étudié, en faisant des recherches pour mon livre, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup de scientifiques qui avaient travaillé sur cette question. On parlait tout à l'heure de Poincaré, c'est comment... c'est comme la psychanalyse, réalité. C'est-à-dire qu'on va confier à notre esprit le soin de... On va lui confier un pourquoi, on va lui lancer un pourquoi. Et lui, il va opérer, il va faire ses relations, il va faire ses sauts, il va faire ses associations, comme en psychanalyse, et formule à la fin un comment. C'est cette nuit qui porte sommeil, c'est ce moment où on se réveille en se disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé.
Non, je suis entièrement d'accord, c'est cette créativité, mais créativité ciblée dont vous parlez, parce que vraiment, c'est ça que je veux résoudre, c'est ça là-dessus que je mettais le doute, mais pas sur la créativité. Il faut faire peut-être plusieurs siestes pour arriver à la question que vous avez ciblée. Une sieste d'après vous répondra peut-être.
Il a bien fait la sieste, là, depuis 10 heures, Thibaut de Saint-Maurice. Il est l'heure de retrouver sa chronique, Philo.
Je me réveille.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Et ce matin, Thibaut, vous vous demandez comment vivre cette saison de l'été et peut-être comment y survivre.
Ben oui, Alice, c'est la fin donc, de cette première semaine d'été et les semaines qui viennent vont donc concentrer tout ce que l'été nous réserve de meilleur, en tout cas normalement, hein, le beau temps, la lumière, les repas pris dans le jardin, les pique-niques au bord de la mer ou sur les chemins de randonnée. La pleine maturité des plantes et des fleurs, bientôt aussi la fin des examens, les premiers départs en vacances, les petits-enfants chez les grands-parents et la réciproque merveilleuse, les parents enfin libérés des enfants pendant quelques jours ou quelques semaines. Les premiers jours de l'été, donc, sont des journées pleines d'enthousiasme et d'impatience. L'été, c'est un peu la saison que l'on a l'impression d'attendre pendant les trois autres saisons comme le point culminant de toute l'année. Mais c'est aussi une saison dont l'intensité n'est pas facile à vivre. L'été préfigure aussi déjà les changements de la rentrée, les mutations, les départs en retraite, les déménagements ou l'arrivée dans une nouvelle classe. Alors certes, on attend qu'il arrive, mais on redoute presque dès son commencement qu'il ne s'achève. Quand vient la fin de l'été, comme le chante Laurent Voulzy, c'est toute une mélancolie qui nous envahit, à peine commencée. Et voilà déjà que ces promesses nous inquiètent.
Et comment donc profiter de la joie de l'été sans qu'elle ne soit contaminée par la peur de sa fin programmée ?
Eh bien, c'est là toute la question, et avec elle, la clé peut-être d'un été réussi. De fait, nous avons du mal à vivre au présent de nos vies. D'abord parce qu'on nous a appris à nous méfier de celles et ceux qui vivent au jour le jour, comme on dit, comme si c'était là la marque d'un manque de maturité et de responsabilité. Et ensuite parce qu'il y a une difficulté inhérente à vivre ce qui se présente, puisque à peine est-il présent qu'il est déjà passé et que vient déjà l'heure suivante ou le jour suivant. Ainsi, l'été plus que pendant toute autre saison, faut-il apprendre, et on en parlait à l'instant, à vivre au présent, à refaire sienne ce vers latin donc, du poète Horace, qu'on va citer en entier, « Carpe diem quam minimum credula postero », ce qui signifie, cher Ali.
Ça, je ne sais pas du tout.
Ah, ça, c'était voilà. Le piège de fin de saison. La vengeance voilà. De Thibaut.
Donc, le yétive, pointu, la formule d'Horace. Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Voilà qu'on a raccourci, on en parlait, en une petite formule magique portative, donc le fameux carpe diem. Donc, cette formule exprime la clé de la sagesse propre à la philosophie d'Épicure. Épicure propose en effet de nous libérer de l'inquiétude du passé, puisque de toute façon, il est passé, donc on ne peut plus le changer, et de nous libérer de l'inquiétude de l'avenir, puisqu'on ne peut pas le connaître, il est imprévisible. La seule chose que nous ayons à faire est de nous concentrer sur le jour présent, qui est le seul instant qui se présente. Alors c'est facile à dire, mais pas si facile à faire. Sauf si l'on prend le temps de regarder le soleil. Ce soleil dont l'été est la saison de prédilection et qui nous invite à la vérité. Cette belle invitation est celle que fait la jeune philosophe Emma Karenini dans son livre « Soleil, mythe, histoire et société ». Regarder le soleil nous force à nous arrêter instantanément, tout simplement parce que sa lumière nous aveugle, mais instantanément aussi, ça nous conduit à nous retourner vers ce que le soleil rend visible en l'éclairant. Et comme le remarque Emma Karenini, le soleil est un facteur de vérité. Et il n'est pas étonnant que la philosophie occidentale soit née en Grèce, au bord de la mer, là où l'on ne peut pas échapper à la puissance du soleil. Suivre le soleil, c'est remonter la source du monde, c'est remonter le fil du visible et du temps. C'est le soleil qui fait les jours et qui découpe le présent dans la succession des révolutions terrestres. Vous trouvez ça compliqué ? Pas du tout. Ça commence par la petite bande de lumière qui traverse le volet au petit matin, par le jeu d'ombre et de lumière qui danse toute la journée sur les terrasses ou dans la campagne, par la chaleur de sa lumière aux fleurs de nos peaux, sur la plage ou sur les chemins de randonnée encore, et puis par la douceur orangée qui gagne la campagne ou le bord de mer à la fin de la journée. Laissons donc le soleil nous trouver cet été et nous apprendre à cueillir le jour. Et puis, s'il pleut pendant des semaines, pas d'inquiétude, il y a beaucoup d'autres soleils à découvrir dans chacune de nos vies.
Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice pour cette saison de chronique. Thibaut de Saint-Maurice, on vous retrouvera la saison prochaine avec une nouvelle chronique le vendredi. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres du chef Grégory Coël. Alors, Grégory Cohen, une recette idéale pour le pique-nique avant de faire la sieste.
Exactement. Je vais démarrer en fait par la base de cette recette. Et cette recette, après, vous allez pouvoir l'adapter chez vous exactement comme vous voulez. Il s'agit d'un cake. Et pour faire ce cake, il faut faire un appareil ou une préparation à cake. Donc, je donne la recette de cet appareil-là. Et après, on s'amuse à faire exactement ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite au cake. Alors, il faut 180 grammes de farine.
On dirait le nom d'une émission, c'est génial.
Pardon ?
Il n'y a pas de limite au cake, moi j'adore.
Mais oui, il n'y a pas de limite au cake. C'est ton imagination, Guimette. Allez, 180 grammes de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 10 centilitres de lait entier idéalement, et un peu d'huile d'olive parce que ça fait pas de mal. Ça, c'est la base de la préparation. On mélange tout, c'est hyper simple. On préchauffe son four à 180 degrés, et après on cuira notre cake pendant 40 à 45 minutes. C'est tout. Derrière, on s'amuse. On veut en faire un avec du chèvre, des figues, du noix, des noix et un peu de romarin. Allez hop, on a un super cake. On le termine par le laquer avec un peu de miel à la sortie du four. On a envie d'en faire un autre au chorizo ou chorizo, ça dépend comment on le prononce, avec des poivrons grillés et du comté. Pareil, on fait ce qu'on veut. On a envie même de s'amuser à faire une déclinaison autour des tomates. On va pouvoir prendre des tomates confites et des tomates cerises. Et on va pouvoir faire un cake 100% tomate. Donc amusez-vous, profitez-en, vivez. Sky is the limit for the cake.
Alors,
merci,
moi, c'est un peu mon combat. Vous savez, dans la vie, on a des combats. Moi, mon combat, c'est le four à chaleur statique.
Là, voilà. On peut faire les deux.
Donc, je recommande quand même de faire les cakes à la chaleur statique plutôt qu'à la chaleur tournante.
Oui, patron.
Voilà. Non, mais c'est vrai, ça change tout. Je suis désolé. Depuis que je fais des cakes à la chaleur statique, ça a changé ma vie, vous savez.
Ah, oui, oui. Hein,
voilà. Et la recette de Grégory Cohen est à retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off, avec... Merci Brice Faro et merci Sébastien Spitzer. Je recommande vraiment votre petite philosophie, la sieste, aux éditions de La Martinière. On retrouve tout de suite la chronique avec la langue de Julie Neveu.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non ?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, pour cette dernière chronique, ultime chronique dans cette émission, vous avez préparé un quiz sur les vocaux.
Oui, Ali, c'est une chronique quiz et aussi sondage et aussi une petite bande démo. En gros,
c'est un fourzitou, quoi.
Voilà, oui. Fourzitou. Je montre tous mes talents au cas où quelqu'un veuille me réembaucher dans l'audiovisuel. Donc, j'ai soumis un de la science. Mais pas trop, hein. Un petit peu d'humour, un peu d'émotion grâce à mes amis. Il y aura même quelques gros mots et on effleurera le sexe, mais pas vraiment. Bon. Bref, c'est une chronique bouquet finale, hybride comme le type de communication permise par certaines messageries depuis environ 10 ans, le vocal. Le mot est entré dans le Robert cette année. Pourquoi hybride, Julie ? Eh bien oui, je peux me relancer toute seule.
Oui.
Parce que ce type de communication relève bien sûr de l'oral, de la voix, comme une conversation en face à face. Sauf qu'on est tout seul, ce qui est plutôt un paramètre de l'écrit. La distance physique, le côté asynchrone. Je parle et vous écoutez quand vous pourrez. Donc, entre oral et écrit, proximité et distance, monologue et conversation, c'est en fait souvent de l'intimité adressée. Émotion, récit expressif d'épisodes que la voix met en scène, mais aussi avec la voix parfois, tout l'environnement, comme une bribe de vie qu'on nous envoie. Hier, j'étais en plein vocal quand je suis tombée sur un groupe qui répétait. En fait, il m'a dit que c'était ma dernière chronique, toi. T'y crois, toi, putain ? Ah, excuse-moi, là, il y a un peu de son. Voilà, dans son vocal... Vous allez voir, ça continue. Dans son vocal de réponse, mon amie faisait ses courses. Et oui, elle était double tâche, le multitâche est fréquent dans les pratiques digitales.
Non, mais c'est fou, ça, ta chronique s'arrête. Je peux pas croire, c'est dingue. Mais, bonjour. Ils vont te reprogrammer. Tu vas avoir une nouvelle émission, non ? Excuse-moi, je suis chez l'Italien. Je crois qu'ils n'ont plus de mozzarella.
Et non, ils n'avaient plus de mozzarella. Bon, bah Claire Destacan, j'en profite pour te remercier. Merci d'avoir pris tous mes sons. Nicki Minaj et même le Picard. Merci bien sûr Ali et Guillemette, Christina, Thibault et Grégory, merci. Allez, un autre son d'amis avec ce qu'on appelle les marqueurs de disfluence. Les hésitations.
Et voilà, et puis, écoute, je suis triste que la radio, ça finisse. C'est vraiment bon, mais écoute, tu feras, c'est aussi
voilà. Ouais. Bon, enfin, on ne sait pas trop quoi ce que je fais, mais bon, alors les E, les voilà sont les marques d'une vraie parole spontanée. On hésite, on réfléchit, on se reprend, un peu plus encore que dans une conversation en face à face, parce qu'on n'a pas tous les signaux gestuels et vocaux de l'interlocuteur qui nous confirme qu'il nous écoute. Bon, alors moi, les vocaux, vous avez compris, j'adore. J'adore l'hésitation, j'adore toutes les inflexions des voix qui me sont chères. Mais j'ai fait un petit sondage sur une quinzaine de personnes et j'ai découvert qu'il y avait autant de pratiques de vocaux qu'il y avait d'individus, avec néanmoins quelques comportements similaires par tranche d'âge. Alors en indice avant ce petit quiz, la diversification des pratiques des vocaux, la compétence globale donc, est plutôt inversement proportionnelle au nombre des années. Alors question 1, quelle tranche d'âge s'excuse environ une fois par vocal de faire un vocal et que sans doute c'est trop long ?
Oh bah c'est nous ça.
Ouais, c'est nous.
Les quinquagénaires.
Bah ouais, entre 40, 50, 55 ans. Usagers hésitants, parfois réticents. Expertise limitée, nouveauté relative du format. Réflexivité accrue, tendance à s'auto-commenter, voire à s'auto-censurer. Le complexe du naïf numérique.
Bon bref, c'est très chiant toute cette période. J'arrête ce vocal parce qu'il est beaucoup trop long. Et j'ai limité le message.
Question 2. Quelle tranche d'âge m'a répondu ? Les vaut quoi ? Moi, je laisse des messages sur les répondeurs. À votre avis, ben les boomers, oui, les plus de 60 ans, dommage que les gens n'écoutent plus leurs répondeurs. Question 3. Quelle tranche d'âge a développé une véritable éthique des vocaux, demandant le consentement avant d'envoyer un vocal, basculant vers l'écrit dès qu'une série de vocaux de moins de une minute se finit et parfois la conversation est à plusieurs, changeant de vocal pour chaque nouveau sujet abordé, réservant le vocal aux très proches et donc consentant.
Oh bah, les
20 ans. Ouais, les 20-30 ans. Les 20, virtuoses du vocal. Question 4. Quelle tranche d'âge a un emploi plus systématique du vocal et en envoie même si vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez les écouter ?
Les moins de 20 ans.
Oh, oui, 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 les 15 ans, s'il vous plaît, les enfants de Claire, écoutez la chronique. Question 5. À combien de temps en moyenne est estimée la durée appropriée d'un vocal ? 41 secondes.
Moi, il dure 2 minutes.
Ah, bah, c'est trop, c'est trop, Ali. Question finale, combien de personnes trouvent que les vocaux sont trop longs et ennuyeux ? Ben, ouais. La moitié. Alors, quand je pense que ma moyenne à moi est de 5 minutes, ah, s'il vous plaît, les amis, dites que vous consentez quand même. Parce que, comme dit mon copain Charles Bonneau, si j'ai plus la radio, eh ben, j'aurai toujours les vocaux. D'ailleurs, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos 06.
Merci beaucoup, Julie Neveu, pour votre ultime chronique avec la langue. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous restez dans la famille de France Inter et j'espère qu'on se retrouvera très vite, ma chère Julie.
Merci.
Et c'est ainsi que s'achève le dernier numéro de Grand Bien Vous Fasse, sous sa forme actuelle. À la rentrée, à la demande de la directrice de France Inter, Adèle Van Rett, et du directeur de l'information, Philippe Corbet, j'intégrerai du lundi au jeudi la grande matinale, portée par Nicolas Demorand entre 7 et 9 heures, et par Sonia De Villers entre 9 heures et 11 heures. Je présenterai donc à la rentrée un rendez-vous de 30 minutes entre 10h30 et 11h. Au sein de cette grande matinale et ça sera consacré à la vie quotidienne. C'est donc la fin de Grand Bien Vous Fasse comme vous l'avez connu, donc du lundi au jeudi, sauf le vendredi où nous vous retrouverons entre 10h et 11h en compagnie de Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Audicino. Merci à tous les chroniqueurs qui se sont succédés dans cette émission depuis 2016. Adrien Chaboch, Baptiste Beaulieu, Christophe André, Éric Libiot, Julien Bisson, Gwenaël Boulet, Jean-Laurent Casselli, Julia Foyce, Antoine Lee, Jérémy Pelletier, Maya Mazorette, Julie Neveu et Sandra Colombo. Merci à mes formidables équipes sans qui cette émission ne serait pas la même. À ma chère réalisatrice Claire Destacan qu'on peut applaudir. Fidèle complice depuis le début de l'émission. Merci également à Jérôme Boulet et Eric Lenné d'avoir réalisé cette émission. Merci infiniment aux super nanas, aux Wonder Woman de la programmation. Merci à Alexia Rivière à qui je souhaite un prompt rétablissement. Aux indispensables Nathalie Romero, Cyrine Benyounès, Lucie Grandet-Lavigne et Lisiane Larbani. Merci également à Camille Poux-Gelagui. On peut les applaudir.
Ouais.
Merci à notre stagiaire Antoine Poitras, à qui je souhaite bon vent, et merci aux anciens dirigeants qui ont permis à Grand Bien Vous Fasse d'exister, Frédéric Schlesinger et Laurence Bloch. Merci aux anciens directeurs des programmes, Emmanuel Perrault, Yann Chouquet et Jonathan Curiel. Merci également à la présidente de Radio France, Sybille Veil, pour sa confiance constamment renouvelée. Merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs. Vous nous suivez depuis ces 9 saisons, portant Grand Bien Vous Fasse à la première place en termes d'audience entre 10h et 11h. Merci à tous les auditrices et auditeurs. Et lundi, évidemment, vous retrouvez la version estivale.
Mais
Grand Bien Vous Fasse avec vous, Eva Rock, fidèle Eva Rock, fidèle camarade.
Et ben, je vous embrasse tous. Merci pour ces 4 saisons qu'on a passées ensemble. Et puis on se retrouve lundi avec un Grand Bien Vous Fasse un peu estival, avec la chanteuse Solane et avec l'autrice Aya Sissoko, et on va parler de comment se réparer avec les mots. Voilà.
Merci Eva, en tout cas, je suis ravi que vous soyez là au mois de juillet.
Merci
pour
beaucoup, Ali,
continuer
pour
le flambeau de Grand Bien Vous Fasse. Et merci à vous tous, je vous applaudis.
Merci.